Le journal présenté par Lise Verbeek.
Soir, bonsoir. Solidarité, collégialité, confidentialité, trois concepts qui résument la méthode Macron que le nouveau chef de l'État a distillé ce matin à ses ministres lors du tout premier conseil. Antoine Maret nous fera un résumé de ce qui s'y est dit. Et puis nous entendrons Nicolas Hulot qui s'exprime sur l'un de ses plus gros dossiers, Notre-Dame-des-Landes. Emmanuel Macron qui sera dès la première heure demain au Mali pour sa première visite hors de l'Europe. Il sera aux côtés des soldats sur la base militaire de Gao. Le président qui est aussi chef des armées. Nous ferons une analyse de sa stratégie militaire avec notre invité, l'ancien colonel Michel Goya. Elle dit ne pas avoir particulièrement hésité. Marine Le Pen annonce sa candidature dans la circonscription du Pas-de-Calais à Hénin-Bonbon. La crise politique au Brésil, Michel Temer, le président dans la tourmente. Son mandat ne tient qu'à un fil après de nouvelles révélations de corruption. La photo de famille du nouveau gouvernement ce matin, 22 ministres et secrétaires d'État réunis autour d'Emmanuel Macron pour le premier conseil des ministres. Avec une originalité par rapport à la tradition, le cliché a été pris non pas sur la terrasse de l'Élysée mais à l'intérieur. Sur cette photo, Nicolas Hulot entre Sylvie Goulard et Édouard Philippe. Nicolas Hulot qui s'est dit ému de participer à ce premier rendez-vous important, sachant que c'est la première fois qu'il accepte de participer à un gouvernement. Il l'avait refusé aux trois chefs d'État précédents. En tant que ministre de la transition écologique et solidaire, de gros dossiers l'attendent, dont celui de Notre-Dame-des-Landes et du projet d'aéroport. Quelles seront ses marges de manœuvre sur ce sujet? Voici la réponse de Nicolas Hulot, qui était l'invité du JT de France 2.
Justement, on va sortir de la confrontation et on va rentrer dans la consultation et la coopération sur ce sujet et sur beaucoup d'autres.
Mais votre conviction...
Ma conviction, moi, c'est qu'il existe d'autres alternatives, mais la médiation qui va démarrer, probablement, en fera la démonstration. Toutes les solutions et les options sont sur la table. Mais encore une fois, à partir...
Donc un abandon du projet est possible.
Toutes les options sont sur la table. Non, mais c'est pas une langue de bois. C'est que ma conviction, c'est qu'on n'a pas étudié toutes les alternatives. Et je pense que la meilleure démonstration pour apaiser, c'est que par rapport aux contraintes, aux visions des uns et des autres, il y a probablement une autre option qui permettra de satisfaire les intérêts des uns et des autres.
Et quant à la question du nucléaire, Nicolas Hulot reconnaît peut-être une divergence avec Emmanuel Macron sur la vision, mais dit-il, il y a un chemin commun. Il a confirmé l'objectif pour 2025 de réduction de la part de l'électricité d'origine nucléaire de 75 à 50%. Nicolas Hulot semble tout de même prudent. Une prudence qui s'explique peut-être par ce qui a été dit ce matin au Conseil des ministres. Emmanuel Macron y a rappelé les grandes lignes de son quinquennat et il a surtout parlé de discipline et de solidarité absolue, Antoine Maret.
Le chef de l'État a rappelé ce que sera la méthode Macron. Emmanuel Macron fixe le cap. Le Premier ministre doit lui être d'une fidélité totale. Et c'est sous son autorité totale, celle du Premier ministre, que les ministres mettent en œuvre ce cap. Chaque ministre est responsable de sa politique et il ne doit pas s'abriter derrière son cabinet. Le chef de l'État a longuement insisté sur ce point. Christophe Castaner est le porte-parole du gouvernement.
J'ai été moi-même en cabinet ministériel en 1997. Et j'ai pu observer la place un peu prépondérante des cabinets qui quelquefois étaient amenés à ne pas respecter l'administration ou quelquefois ne pas respecter le pouvoir législatif. Et donc le président de la République a rappelé la responsabilité de chacun. Un ministre ne doit pas se protéger ni déléguer son pouvoir à un cabinet ministériel.
Chaque ministre est donc responsable, mais chacun devra faire preuve de solidarité avec le reste du gouvernement. Le but, c'est d'éviter une cacophonie au sommet de l'État entre des membres du gouvernement venus de la droite, du centre, de la gauche et de la société civile.
À plusieurs reprises, le président de la République a souligné que la cohérence ne veut pas dire uniformité. Chacun a des parcours différents, des opinions différentes, des analyses qui peuvent être différentes. Si le président de la République et le Premier ministre ont choisi tel ou tel membre du gouvernement, c'est justement pour ce qu'ils sont. Mais en même temps, quand une chose est tranchée, dans le cadre de la collégialité, elle doit devenir la règle et elle implique, elle appelle la solidarité collective.
Le chef de l'État a également affirmé quel sera le rôle du Conseil des ministres. Réflexion, discussion et arbitrage. Le but, c'est que les propositions soient anticipées et simplifiées pour qu'il y ait des discussions sur les objectifs et non pas sur les détails du texte.
Emmanuel Macron qui s'envole cette nuit pour le Mali. C'est son premier déplacement à l'étranger hors Europe. Il sera auprès des troupes françaises à Gao. Alors, quelle est la stratégie militaire du chef des armées? Pour en parler, nous sommes avec Michel Goya. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ancien colonel, analyste des conflits et auteur du blog La Voix de l'Épée. Alors d'abord un mot sur le ministère concerné qui s'appelle le ministère des Armées, avec à sa tête Sylvie Goulard, non plus le ministère de la Défense. Est-ce que ça veut dire quelque chose selon vous, ce changement d'appellation ?
Oui, ce n'est pas anodin. Le ministère des Armées, c'est une appellation qui datait du début de la Ve République, qui avait été abandonnée en 1974 et d'un seul coup ça ressurgit. Alors on peut y voir deux choses. La première, c'est la fin d'une sorte de période d'euphémisation d'une certaine façon, où on n'appelait pas les choses par leur nom, où on parlait de défense plutôt que de guerre, où on parlait de où l'école de guerre se transformait en collège de défense, des choses comme ça. Donc on peut voir ça, une forme de remilitarisation d'une certaine façon, des appellations, mais surtout on peut y voir, peut-être plus négativement, une restriction du champ du ministère. Je m'explique, le ministère de la Défense, un ministère particulier, ou des armées donc, c'est un ministère particulier, c'est-à-dire que le ministre en exercice n'a pas forcément tout à fait la plénitude des pouvoirs qu'ont les autres ministres, puisque le chef des armées, c'est le président de la République. Et qu'il est assisté directement par des conseillers techniques qui sont le chef d'état-major particulier et le chef d'état-major des armées. Donc là, on a un jeu un peu à trois, d'une certaine façon, entre le président de la République, qui est chef des armées, qui conduit, qui décide et conduit les opérations avec les militaires, et puis le ministre qui est normalement plutôt un technicien et qui est chargé en réalité de la préparation des forces, de leur maintien en condition, des aspects budgétaires, mais qui n'a pas normalement la conduite des opérations. Et donc là, ça peut être le symbole ainsi que d'autres éléments que d'un retour à cette fonction un peu traditionnelle, à la réduction d'une certaine façon du ministre à son poste, un rôle technicien des opérations lui échappant.
Alors ça veut dire qu'Emmanuel Macron reprend pleinement son rôle de chef des armées. Alors il se rend demain au Mali avec Sylvie Goulard et avec Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, donc sur la base de Gao, pour saluer les troupes françaises engagées dans l'opération Barkhane. Pourquoi avoir choisi Gao selon vous ?
Alors bon, d'abord il y a un certain nombre d'indices qui montrent qu'effectivement le président de la République veut réendosser pleinement ce rôle de chef des armées. Le choix d'un véhicule de commandement militaire pour descendre les Champs-Élysées au moment de la passation de pouvoir, le fait d'aller rendre visite à des blessés, et puis la visite assez rapide vers un théâtre d'opération. Le choix a été fait de l'opération Barkhane, alors peut-être parce que, bon d'abord c'est l'engagement le plus important en moyen, je dirais, pas forcément en volume humain, mais en moyen, c'est quand même l'engagement militaire le plus important actuellement en cours, et c'est un engagement où nous sommes au premier rang, je veux dire, l'engagement au Moyen-Orient, au Levant, dans l'opération Chamal, donc l'opération française, en réalité, nous sommes une partie relativement, non pas négligeable, mais quand même assez réduite d'une coalition qui est dominée par les Américains. Là, au Sahel, nous sommes dans une autre coalition, avec les pays de la région, mais c'est nous qui sommes au premier rang dans cette coalition.
Oui, d'où le choix de Gao demain. Et justement, quels sont les autres fronts qu'il devra gérer ? Est-ce que, alors, je pense notamment à l'Irak, la Syrie, est-ce qu'il va s'inscrire dans la lignée de ses prédécesseurs ?
Bah, écoutez, pour l'instant, il n'a pas beaucoup, je dirais, de marge de manœuvre, hein, et puis rien n'indiquait qu'il comptait renoncer à ce qui a été fait, je veux dire, ou qu'il allait engager des inflexions majeures. On restait, si vous voulez, en la matière, on restait globalement dans un certain flou. Bon, le président de la République avait annoncé dans son programme qu'il y aurait une revue stratégique d'ici à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on va refaire un point de situation des engagements et de la situation de nos armées. Donc pour l'instant, il prend effectivement le rôle de chef des armées, son rôle de chef des armées que le président précédent avait un petit peu délégué, au moins dans la conduite des opérations, avait délégué à son ministre de la Défense. Donc là, il prend pleinement en compte. Pour l'instant, il n'y a aucune annonce majeure de changement de stratégie, ou si tant est qu'on ait vraiment une stratégie assez claire. Mais voilà, c'est quelque chose qui certainement va se définir assez rapidement.
Merci Michel Goya d'avoir été notre invité ce soir, ancien colonel et analyste des conflits. Vos analyses sont à retrouver sur votre blog qui s'appelle La Voix de l'Épée. Emmanuel Macron qui a bouclé donc sa liste de candidats En Marche aux législatives, 522 au total, soit 55 circonscriptions sans candidats pour laisser par exemple le champ libre à Manuel Valls, Stéphane Le Foll, Myriam El Khomri, Bruno Le Maire ou encore Benoît Apparu. Le dépôt des candidatures pour tous les partis aux législatives s'achève demain. Un nom s'est rajouté à la liste FN, celui de Marine Le Pen. Elle a annoncé ce soir sur le plateau de TF1 qu'elle se présente dans la circonscription d'Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. La présidente frontiste qui se lance donc dans cette bataille après sa défaite à la présidentielle. Elle a d'ailleurs reconnu que son débat de l'entre-deux-tours avait été raté, selon ses propres mots. En revanche, pour Marine Le Pen, le fait que sa nièce quitte ses fonctions, que Florian Philippot crée sa propre association, ça ne veut pas dire que le FN va mal.
Marion est une jeune maman, elle a fait le choix de partir passer quelques temps dans le privé, peut-être pour mieux revenir d'ailleurs, et tant mieux, je la comprends, c'est un gros sacrifice, vous savez, de faire de la politique dans l'opposition, surtout quand on voit la manière dont la majorité s'est comportée précisément à l'égard de cette opposition pendant des années. Florian a monté une association de réflexion, un think tank, très bien, je trouve que plus il y a d'idées qui vont émerger, mieux c'est. Nous allons nous engager après les législatives dans la modernisation du mouvement, dans une vraie réflexion de fond, comment mettre en forme ce mouvement pour qu'il puisse accueillir potentiellement les 11 millions déjà de Français, ce qui est évidemment un nombre considérable qui se sont portés sur ma candidature au second tour, comment être les plus performants possible. Ben ça, c'est le chantier que nous ouvrirons précisément le lendemain du second tour de l'élection législative.
Marine Le Pen sur le plateau de TF1 tout à l'heure. 20 ans que le bras de fer judiciaire durait, l'affaire du Crédit Lyonnais sur la revente d'Adidas est close. Bernard Tapie va devoir rembourser 404 millions d'euros. La Cour de cassation l'a définitivement condamné. Alors peut-il rembourser une telle somme? Pas dans un avenir proche du moins. Il est à titre personnel en liquidation judiciaire. Ses sociétés ont été placées en procédure de sauvegarde. Les juges ont tout de même saisi pour 90 millions de biens, dont une villa à Saint-Tropez. À New York, une voiture a renversé des piétons aujourd'hui sur Times Square. Une jeune femme est morte, 22 autres personnes ont été blessées. Selon la police new-yorkaise, il s'agirait d'un accident et non a priori d'un acte terroriste. Le chauffard a été interpellé, il s'agit d'un ancien militaire de l'US Navy de 26 ans qui a un casier judiciaire. Une nouvelle crise politique agite le Brésil. Un an tout juste après sa prise de fonction, le président Michel Temer est touché par de nouvelles accusations de corruption. Et cette fois, elle pourrait bien le faire tomber. Un quotidien brésilien a révélé qu'il aurait été enregistré à son insu par un chef d'entreprise, celui du géant mondial de la viande GBS, en train de donner son accord pour le versement de pots de vin. Ces révélations ont fait dévisser la bourse de Sao Paulo et pousser les Brésiliens à descendre dans la rue pour demander la démission de Temer. À Rio, les précisions d'Anne Vigna.
C'est donc au tour du géant brésilien de la viande, l'entreprise GBS, de faire tomber les hommes politiques au Brésil après les aveux du groupe industriel Odebrecht sur une centaine de politiciens. Cette fois, la collaboration entre GBS et la justice brésilienne a été réalisée dans le plus grand secret pour obtenir des preuves. La plus compromettante de ces preuves est donc cet enregistrement audio du président Michel Temer en mars dernier. Le propriétaire de GBS informe le président Temer que l'ancien député Eduardo Cunha, en prison depuis 6 mois, continue bien de recevoir des pots de vin en échange de son silence. Le président Temer répond alors qu'il faut continuer ses versements illégaux à celui qui fut le président de la Chambre des députés et auteur de la destitution de la présidente Dilma Rousseff il y a tout juste un an. Cet enregistrement, révélé hier soir par le journal Globo, a provoqué un véritable tsunami politique au Brésil. Députés, sénateurs d'opposition mais également de la base parlementaire de Michel Temer demandent aujourd'hui sa démission. Des manifestations sont organisées dès ce soir au Brésil pour exiger son départ sous le slogan « Des droits tout de suite ». Il s'agit là du même slogan que celui utilisé par les Brésiliens il y a plus de 30 ans pour exiger la fin de la dictature militaire. Michel Temer a pourtant annoncé dans un communiqué qu'il ne comptait pas démissionner et se dit victime d'une conspiration. Seule certitude aujourd'hui, l'adoption des réformes impopulaires sur les retraites et le code du travail sont remises à plus tard.
Anne Vigna à Rio pour France Culture et la Cour suprême brésilienne. Mayenne a donné son feu vert pour démarrer une enquête sur le président Michel Temer. L'instabilité également au Venezuela, les manifestations qui exigent la démission du président Maduro durent depuis plus d'un mois et demi. 43 manifestants sont morts. Le président Maduro a envoyé 2000 militaires dans l'ouest du pays pour tenter de contenir les émeutes et les pillages. Le temps pour demain, pluvieux dans l'est et nuageux dans l'ouest. Dans le reste du pays, un ciel variable ponctué d'averses. Le golfe du Lion sera lui sous le soleil. Les températures maximales iront de 13 à 24 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec François-Charles Domergue.